Tribu, Laurent Caspary.
Bonjour, bienvenue dans Tribu. Peu de sujets sont aussi tabous que celui qui traite de notre propre disparition. Forcément, ça n'est guère encourageant et engageant d'envisager sa propre mort, voire pire, la mort de ses proches. Et pourtant, la mort est partout, omniprésente dans notre société, à commencer par celle qui jaillit, réelle ou virtuelle, de nos écrans, des nouvelles du monde, des jeux vidéo. On en parle sans en parler, et souvent, une simple image d'un mort, aussi paisible soit-elle, se révèle dérangeante pour un grand nombre de personnes. On va se demander pourquoi, et quel est notre rapport à la mort, et on va le faire grâce à une exposition qui est visible actuellement au musée d'ethnographie de Neuchâtel jusqu'au 17 janvier prochain. Une exposition intitulée « C'est pas la mort » et qui nous entraîne dans une série de réflexions à ce propos. Bonjour Bernard Knodel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct dans notre studio. Bernard Knodel, vous êtes conservateur adjoint du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Vous êtes responsable de l'exposition des étudiants qui a lieu tous les deux ans. On va y venir parce que c'est eux qui ont monté cette exposition.
Absolument.
C'est ça ? Exposition qui s'intitule donc « C'est pas la mort », visible jusqu'au 17 janvier. On avait reçu d'ailleurs à propos du musée d'ethnographie de Neuchâtel votre patron, Marc-Olivier Gonzette, c'était il y a quelques semaines sur l'exposition sur le secret qui se termine d'ailleurs tout prochainement.
Ouais, voilà. Le 18 octobre.
Voilà, encore quelques jours pour aller voir le secret. Par contre, la mort, on a encore un peu de temps. C'est pas la mort. Pourquoi ce titre, Bernard Knodel ?
Pourquoi ce titre ? Parce que, au fond, la mort est une chose complexe qu'on a du mal, en fait, à cerner, à définir. Et en fait, avec les étudiants, on a choisi assez rapidement, au cours de l'année où on a préparé l'exposition, de ne pas l'aborder, en fait, sous un angle précis, mais plutôt d'ouvrir, en fait, la réflexion à toute forme de mort, à la fin également, à cette idée, au fond, de disparition. De deuil, donc plein d'autres éléments en fait voisins de la mort qu'on avait envie d'évoquer pour aussi permettre aux visiteurs d'avoir un espace de réflexion sur la mort, un espace de réflexion, une déambulation où il va découvrir un certain nombre de thématiques, de questionnements. Et puis c'est pas la mort, au début c'était une boutade parce qu'en fait on intervient dans un espace quand même assez conséquent. D'habitude l'exercice des étudiants c'est dans 60 mètres carrés et puis là, étant donné l'exposition classique annuelle du musée qui a lieu hors les murs, donc secret, on avait à disposition les 600 mètres carrés de l'espace temporaire d'exposition. Et puis, bien sûr, c'est un challenge en fait de faire une exposition de cette ampleur-là. Et on s'est rendu compte que, alors au début, c'était une boutade. On se disait, on va faire cette exposition. C'est pas la mort, c'est pas si grave, on y arrivera. Et puis, on s'est rendu compte que c'était un titre qui était assez pertinent par rapport à la question de la mort, parce qu'en fait, chaque fois qu'on l'approche, elle nous échappe. Et en fait, quand on tente de définir la mort, c'est jamais la mort dans toute sa complexité qu'on arrive à définir, mais certaines approches en fait de la mort, certains questionnements, et d'une certaine manière, ça évoque au fond cette question.
Donc c'est une question au sens large, la mort dans toute sa grandeur. Vous n'avez pas pris un angle particulier, vous auriez pu choisir le suicide ou le suicide assisté par exemple, on en parle beaucoup, pas du tout. Vous êtes vraiment dans, le visiteur est confronté à la mort de manière générale.
Absolument, en fait à certains moments il y a justement des pistes de réflexion dans l'exposition, mais on cherchait vraiment à ouvrir, à sortir un petit peu de cette idée dans les milieux académiques qu'il faut être dans le sujet, qu'il faut cadrer, toujours être plus précis. A aussi montré qu'en fait la mort c'est pas forcément un discours de spécialiste, que tout le monde a quelque chose à envisager, à réfléchir autour de la mort, et puis que le musée est un lieu pertinent justement pour élaborer une pensée, se confronter à ces questions-là. Alors c'est pas une exposition du tout didactique ni analytique des rituels funéraires ou de quelque chose de ce type-là, c'est vraiment une exposition assez humble en fait, qui donne à voir des éléments, des associations d'idées pour en fait faire réfléchir le visiteur à sa propre mort d'une part, mais également à cette idée de finitude plus largement.
On va entrer d'ailleurs dans quelques salles tout à l'heure grâce à vous, puisque vous décrirez comment vous avez pensé certaines salles avec certains objets qui vont nous faire réfléchir à propos de la mort. Mais pourquoi ce sujet, j'ai envie de dire, c'est pas forcément très joyeux a priori comme ça, pourquoi aborder ce thème de la mort?
Alors c'est un petit peu un concours de circonstances, dans le sens que la Fondation de la Chrysalide préparait une trilogie de bande dessinée dont le chef de projet est le scénographe en fait de l'exposition des étudiants, donc Nicolas Schoestet. Et en fait, il est venu me voir en me disant voilà, je prépare ça. Et puis moi, j'avais en fait la mission de préparer l'exposition des étudiants. Et puis on s'est rendu compte que ce serait intéressant de jumeler le vernissage du deuxième tome de leur bande dessinée Tumeur avec l'inauguration de l'exposition des étudiants pour créer en fait un événement autour de cette question. Pour aussi envisager en fait de manière plus large, montrer qu'il y a un questionnement dans notre société et une envie aussi de penser la mort de manière peut-être plus profonde que l'image un petit peu superficielle qu'en donnent les médias.
Oui, alors précisément, la mort omniprésente et tabou, ces deux termes, on va juste les décoder un tout petit peu. Elle est effectivement, je le disais en introduction, omniprésente. On en parle en fin de compte sans même y penser dans les informations qu'on peut entendre. On parle de gens qui meurent, de catastrophes et autres. Donc elle est là, elle est présente. Mm-hmm. Puis c'est tabou parce que on n'aime pas se confronter évidemment à notre propre mort, mais on n'aime pas trop voir la mort en face. Les images sont censurées, c'est quelque chose qu'on cache.
Tout à fait. Dans la littérature, en fait, je dirais des sciences humaines, il y a une idée assez communément acceptée, en fait, que on est dans une société contemporaine qui dénie la mort, qui essaye de la nier, qui essaye de la cacher. Il y a un refus de l'agonie, un refus de la souffrance, un refus de la douleur. Et pourtant, en fait, on meurt souvent dans la solitude, dans l'anonymat, etc. Et puis, ces dernières années, il y a une autre approche théorique qui prend en compte justement cette omniprésence de la mort dans les représentations, dans les médias, etc. Et nous, on oscille constamment en fait dans l'exposition entre ces deux approches-là, qui au fond ne sont pas forcément contradictoires, dans le sens que peut-être cette omniprésence, en fait, c'est une manière aussi de l'oublier. Alors, dans l'espace d'exposition, on cherche plutôt à permettre aux visiteurs de réfléchir à cette question de manière dépassionnée. Voilà.
De plus en plus tabou, est-ce que c'est de plus en plus individuel aussi? Avant, il y avait la mort, c'était quelque chose de peut-être un peu plus collectif. Ouais. On se raccrochait par exemple à la religion.
Absolument, en fait, il y avait une prise en compte collective de la mort, en fait, à travers par exemple le port du deuil ou d'autres rituels, en fait, qui étaient présents dans la société. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on constate que c'est quelque chose de beaucoup plus individuel, que les gens, en fait, se construisent aussi leurs propres croyances, leurs propres hypothèses, en fait, sur la mort, qui reste une grande inconnue. Et d'une certaine manière, on répond aussi à ces questionnements dans l'exposition, sans asséner des vérités, mais simplement en proposant, en fait, des regards symboliques, des regards poétiques sur cette question.
C'est de plus en plus individuel, on l'a dit, la religion, la société est peut-être de moins en moins religieuse, donc ce côté collectif pris en charge par la religion en ce qui concerne la mort s'éloigne. On a créé des rites en fin de compte laïques. Ça n'empêche pas ce côté un petit peu individualisation de la mort.
Alors en fait, effectivement, il y a comment dire, alors certains ethnologues parlent de bricolage, moi j'aime pas tellement ce terme parce qu'en fait on a l'impression qu'il est un peu péjoratif. En l'occurrence, c'est plutôt des constructions, en fait, parce que tous les rituels, en fait, sont des construits. Et disons qu'il y a toujours des croyances qui sont présentes dans notre société liées à la mort qui sont prises en compte de manière plus individuelle.
Alors, par exemple, un des signes extérieurs, c'est la crémation qui est en forte augmentation.
Absolument.
C'est assez intéressant, on le sait, que ce soit dans les cantons plutôt protestants, mais même dans les cantons catholiques, c'est pourtant en contradiction avec l'idée chrétienne de la résurrection des corps.
Absolument, en fait, dans la conception catholique, en fait, la crémation est contraire, en fait, à cette idée de résurrection des corps, et en même temps, c'est quelque chose qu'on voit se développer énormément. Alors, ça répond d'une part à une vision hygiéniste, entre guillemets, hein, de négation justement du corps mort, du cadavre, en fait, qu'on ne souhaite pas voir, qu'on va annihiler en le réduisant en cendres, également à des impératifs, en fait, économiques, des questionnements de...
Quoi, c'est moins cher?
C'est moins cher, en fait, c'est aussi que ça ne demande pas d'entretien, forcément, en fait, ça dépend ensuite les modalités, hein, de cette crémation, mais voilà, ça, disons que c'est assez symptomatique, en fait, d'un regard sur la mort dans notre société actuelle, qu'on cherche un petit peu à estomper, en tout cas, à ne pas trop prendre en compte. La période du deuil, par exemple, en fait, qu'on respecte beaucoup moins, on porte plus le deuil, en fait, aujourd'hui. Et je dirais que la crémation, c'est une manière aussi de rendre ça assez...
assez propre et net.
Assez propre et net.
Assez hygiéniste, ouais. Comme vous le disiez. On va entrer dans votre exposition, si vous le voulez bien, vous aborder la mort de l'homme, mais aussi à travers des objets, hein. Ça, on va en parler. Une quinzaine de pièces en tout.
Une quinzaine de pièces.
Quinzaine
ouais,
de pièces différentes. Prenons peut-être différents objets. Vous me disiez en préparant cette émission, de toute façon, il n'y a pas particulièrement de pièces à suivre, il n'y a pas un trajet particulier, on peut passer d'une pièce à l'autre comme ça. Il y a notamment une pièce où il y a un cercueil accompagné d'un sarcophage et d'un morbier, une ces vieilles horloges. Pourquoi un morbier?
Alors en l'occurrence, effectivement, ces 15 salles sont reliées par un couloir de déambulation. L'idée en fait c'était de s'inspirer de ces lieux en fait de méditation, donc du cloître par exemple, ou du chemin de ronde, ou de ces lieux d'observation, également les coulisses de théâtre en fait, et chacune des salles est une forme de théâtre, une forme de représentation de la mort, ou d'une thématique en fait liée à la mort. Et en l'occurrence, le visiteur, quand il entre, alors tout d'abord, il voit une vitrine où en fait sont amassées des représentations quotidiennes de la mort. Puis ensuite, il va entrer dans ce couloir et la première image qu'il voit au fond du couloir, en fait, c'est le cercueil en pied. Et puis, petit à petit, il parcourt l'exposition et ensuite, il entre vraiment dans cette salle, une salle qui est consacrée à l'idée de boîte de conservation, d'une certaine manière. Donc, en fait, on a décliné un certain nombre de boîtes, que ce soit le morbier, justement, comme vous en parliez, la cuve de sarcophage ou le cercueil, qui sont, en fait, là pour exprimer cette idée poétique, un petit peu, c'est simplement évoqué, du temps, dans la mort, alors peut-être de l'éternité, hein, la société égyptienne antique, ancienne en fait est souvent avec tout le processus de la momification associée à cette idée d'immortalité, d'éternité.
On voulait conserver le corps au maximum.
Voilà, exactement. Et du coup en fait ça entre en écho avec cette question du temps qui s'arrête en fait dans la mort, donc d'où la présence du morbier. Et puis je pense que les gens en fait peuvent se construire leur propre discours par rapport à ces objets. Nous, en fait, avec les étudiants, ce qu'on a cherché à faire, c'était justement à juxtaposer des objets, des textes et des images pour, en fait, construire un récit, d'une certaine manière, construire des images qui doivent entrer en écho, qui doivent faire réfléchir le visiteur, considérant qu'en fait, le musée est un lieu de réflexion, donc dans le sens à la fois de réflexion, un lieu où on va réfléchir cette question, mais également un lieu de réflexion où on tend un miroir à la société. Et d'une certaine manière, là, cette fois, c'est des étudiants de l'université de Neuchâtel qui tendent un miroir aux visiteurs sur ses propres croyances, sur ses propres questionnements, et de voir un petit peu comment est-ce qu'ils réagissent.
Première salle, la toute première salle d'ailleurs, quand on entre, c'est une salle où il y a des fils, en fin de compte.
Ouais. Alors absolument, en fait, la première salle, on l'a construite à travers deux éléments. D'une part, l'objet fil, et puis également la notion de destinée. Tout ça, en fait, réuni autour du mythe des Moires. Donc, on les appelle Moires dans la mythologie grecque, Parc dans la mythologie latine. Il y a également le nom de Norn, en fait, pour les mythologies scandinaves. En l'occurrence, c'est cette idée de destinée. Il y en a une qui va filer, l'autre qui va enrouler le fil, et la dernière qui va couper le fil. Et puis, on part de là, après, avec des associations d'idées pour envisager, en fait, d'une part, tous les fils. Alors, par exemple, les numéros d'urgence, ces coups de fil qui peuvent sauver des vies. Et puis, également les fils dans les milieux médicaux, les défibrillateurs, ces fils qui se dessinent en fait sur les électrocardiogrammes, ou les fils de suture qui vont aider à soigner en fait les personnes. Et puis d'un autre côté de la salle, on est parti plus sur l'aspect organique et en l'occurrence des tissus funéraires, en allant jusqu'aux cheveux.
Les cheveux, parce que c'est vrai qu'on en parle dans la mort. Vous me disiez en préparant cette émission, il y a ce fameux mythe des cheveux qui poussent.
Ouais, alors tout à fait. En fait, ça, il y a une. Alors.
Qui est donc un mythe.
Alors, en l'occurrence, il n'y a pas de. Si on envisage la mort comme un moment précis, en fait, après la mort, le cheveu ne continue pas à pousser. En fait, c'est la rétractation des chairs, en fait, qui donne l'illusion que les cheveux ont poussé, ainsi que les ongles d'ailleurs. Et en l'occurrence.
Ça pose peut-être la question de à partir de quand est-ce qu'on est vraiment mort.
Alors voilà.
Je citais Gian Domenico Borrasio tout à l'heure avec Silvio Dolzan encore dans CQFD parce qu'on l'avait reçu ici, qui est un professeur de médecine, hein, et lui qui disait bon, on commence à mourir en fait à notre naissance.
Oui, absolument. En fait, c'est une question qu'on peut se poser et qui est posée d'ailleurs dans l'exposition au travers d'une salle où on s'intéresse à la définition de la mort. Est-ce que la mort est un processus qui commencerait soit à la naissance, soit même à la conception, en fait. Et que d'une certaine manière, petit à petit, le corps meurt chaque jour. En fait, c'est vrai qu'on a tous des souvenirs en fait de notre vie passée entre guillemets. Et d'une certaine manière, il y a cette idée un petit peu que la mort travaille au quotidien. Et puis ensuite, il y a cette idée aussi de définition de la mort, définition légale, des définitions médicales en fait, qui sont l'objet de renégociation, où on va questionner en fait cette idée de quand est-ce qu'on meurt. Est-ce qu'on est dans un processus, ou est-ce à savoir qu'on meurt, ou est-ce qu'on est mort, à savoir qu'il y a un événement en fait qui serait déterminant pour considérer qu'une personne est décédée.
On va continuer à faire de manière audio la visite de cette exposition, Bernard Knodel, avec vous dans quelques instants. Vous êtes avec nous jusqu'à 11h30. Nous évoquons le thème de la mort dans Tribus ce matin. La mort qui s'expose au musée d'ethnographie de Neuchâtel. Qui dit mort, dit croque-mort. Souvent, en tout cas, on se retrouve après Croque de Thomas Fersen.
Tribus. 11h, 11h30 sur la première.
Quand je rentre à la maison, elle me dit souvent que j'ai une tête d'enterrement. Et elle a raison, je travaille au cimetière, c'est incontestable. Je laisse ma tête au vestiaire et je me mets à table. Faut pas se laisser abattre, j'ai une faim de loup. Moi je mange comme quatre et je bois comme un trou. Puis je retourne au cimetière, travailler de mon mieux, digérer mon pot de bière et mon croque-monsieur. Pendant l'oraison du prêtre, j'ai un petit creux, moi je pense à ma côtelette, à mon pot au feu, aux premières couronnes de fleuves. J'ai déjà la dent, c'est mon estomac qui pleure. À chaque enterrement, la la la, 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 la. Comme un côté du cimetière est inhabité, j'ai planté des pommes de terre dans l'intimité. Et dans ma jaquette noire, entre deux services, je donne un coup d'arrosoir et je cours à l'office. Je gratte, je binet, je bêche, quelle heure surprise. Quand je trouve un verre pour la pêche, je range ma prise dans une boîte en fer-blanc, le temps est superbe. Voilà un coin épatant pour déjeuner sur l'herbe. À présent qu'a sonné l'heure du goupillon, je pense à mes pommes vapeur, à mon courbouillon, et quand tombent les premières gouttes sur mon haut de forme, c'est mon ventre qui glougloute, mon ventre qui grogne, la la la, 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 la. Parfois je croque un oignon, parfois une gousse d'ail, parfois même un champignon est une victuaille. Il faut faire avec, ce n'est pas copieux, car ces oraisons du prêtre on n'en voit pas la queue. Le vent chasse les nuages, c'est providentiel, un grand disque de fromage tourne dans le ciel. La femme monte la tête, j'avale mon chapeau, un bouton de ma jaquette et un pauvre mulot. Je me sens pas dans mon assiette, je vais rendre l'âme quand je pense à mes paupiettes. À mon croque-madame, ça fait trop longtemps que c'est dur. Je m'allonge un peu sur le tapis de verdure et je ferme les yeux. La la la, la la la, la la la, la 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 la, ça fait trop longtemps que ça dure. Je m'allonge un peu sur le tapis de verdure et je ferme les yeux. La la la.
Thomas Fersen qui chante la vie d'un employé de cimetière, qui pense surtout à la cuisine d'ailleurs durant les enterrements. En voilà un pour qui la mort n'est pas forcément tabou. Nous sommes avec Bernard Knoedel, conservateur adjoint du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Nous évoquons le thème de la mort à la fois omniprésente et tabou dans la société avec une exposition intitulée « C'est pas la mort » au musée d'ethnographie précisément jusqu'au 17 janvier avec une musique un peu joyeuse d'ailleurs hein, parce qu'on pense toujours à la mort, ça doit être lourd et difficile, pas forcément. Vous, à part la salle blanche du début, il y a des couleurs joyeuses, Bernard Knoedel.
Il y a des couleurs joyeuses qui sont en fait là pour à des fins symboliques aussi, pour éveiller aussi la réflexion du visiteur. Et puis, en l'occurrence, on a même une salle qui est consacrée au rire, à l'idée en fait de repousser la mort par le rire, à se moquer de cette mort, avec justement une juxtaposition de caricatures d'auteurs de Vigous en fait, et de morts un petit peu absurdes. Donc destiné vraiment à faire aussi rire le visiteur.
Oui, on peut en rire effectivement de la mort. Et puis plusieurs objets, on peut en parcourir quelques-uns, notamment dans certaines salles, une salle consacrée à la condamnation avec des lames, notamment dans l'idée de la décapitation par exemple.
Voilà, alors entre autres, en fait, bien sûr, il y a tout de suite cette image. En l'occurrence, on a cherché à ne pas être dans des images trop convenues, trop directes.
On a cherché une guillotine, vous m'avez dit. Vous avez essayé de trouver une guillotine.
On avait envisagé l'idée d'exposer la guillotine. En l'occurrence, elle est présente à travers le texte. En fait, notamment les très beaux textes de Victor Hugo qui condamnent la peine de mort. Donc c'est une réflexion qui est présente dans cette salle autour de effectivement de la condamnation légale, mais également de la condamnation naturelle. L'idée qu'en fait chacun de nous va mourir hein, avec le mythe de l'épée de Damoclès. Hein. Et puis un certain nombre d'objets qui sont présents soit à la fois de manière symbolique, par exemple la faux, l'idée de la grande égalisatrice, les lames de rasoir qui sont là pour parler de l'autocondamnation, le fait de se suicider, en fait, de se donner la mort. Donc, au fond, à chaque fois, on part d'un objet assez trivial pour, en fait, en le juxtaposant à d'autres objets, en le mettant en espace, en le juxtaposant à du texte ou à des images éventuellement, créer un sens, créer du sens ou en tout cas poser des questions aux visiteurs.
D'autres objets qu'on peut voir, c'est notamment des restes un peu des restes de humains, on va le
bien
dire.
Sûr.
Il y a une tête réduite et puis quelques ossements.
Alors c'est un questionnement central de notre profession, une question déontologique en fait de savoir ce qu'on fait avec ces objets qui n'en sont pas entre guillemets, qui ont un statut un peu particulier, à savoir les restes humains. Alors un certain nombre il y a plein de catégorisations de ce type d'objet, entre guillemets.
Ça peut être des reliques.
Ça peut être des objets destinés à être montrés. Ça peut être aussi des objets qui sont de sources médicales, en fait, ou anatomiques. En l'occurrence, c'est une thématique très complexe. On a choisi d'en montrer, en fait, dans certaines salles pour évoquer certains questionnements. Notamment, il y a une vitrine où on présente des restes humains qui étaient destinés à être montrés, justement, voire même à être portés, du type tête trophée, tête réduite, une calebasse également qui porte des mâchoires humaines. Alors, c'est pas des objets qu'on a montrés pour en fait en faire une curiosité, mais simplement pour montrer que c'est un objet qui fascine, un objet dont on se pare également, et que dans notre société également, on va porter des vanités, des bagues en forme de crâne ou des montres en fait qui portent également ces objets-là.
Et c'est pas forcément ces objets qui dérangent les visiteurs. Dans les réactions, on va dire que de visiteurs qui sont peut-être choqués, c'est un grand terme, en tout cas qui ont été dérangés par certaines choses, c'est des images en fait. C'est une image particulière.
Ouais, en particulier le travail d'un artiste en fait, Steve Juncker, qui a fait un travail assez fascinant d'exposition justement des corps morts. Donc il a suivi au fond des levées de corps. mort. Et puis, il a procédé dans cette série qu'il a appelée L'instant de ma mort à des diptyques. C'est donc à chaque fois une image où, au fond, il prend le corps dans son environnement, comme il est découvert, en fait, par la police en général. Mmh. Et puis, également, une image derrière où on voit, en fait, simplement les traces de ce corps, ou l'absence de traces également. Et ce sont des images qui suscitent des réactions. Je dirais pas forcément qu'elles choquent, en fait. Souvent, les gens envisagent qu'elles puissent choquer, mais on a quand même eu des réactions de visiteurs, notamment qui nous ont laissé des mots. Pourquoi montrer ces corps morts à travers des images? Alors que, en fait, en l'occurrence, les visiteurs, en tout cas, réagissent moins à la vue de ces restes humains.
Mmh. Ouais, étonnant. Comme quoi, c'est bien la preuve que la vision de la mort, on n'est plus habitué, on en voit plus, et ça nous dérange. Ça dérange quelque chose en nous.
Alors c'est tout un questionnement, parce qu'en fait elle est effectivement quand même omniprésente dans les médias. Donc on y est confronté, mais c'est une manière, on s'en protège aussi.
C'est une exposition à voir jusqu'au 17 janvier au musée d'ethnographie de Neuchâtel. Merci beaucoup Bernard Knodel.
Merci à vous.
On va préciser encore que ce jeudi soir, il y a une conférence d'Edmond Pittet, qui est le directeur des pompes funèbres officielles de la ville de Lausanne, qui va parler de son expérience, c'est bien ça?
Oui, justement des changements constatés dans les rites funéraires dans notre société.
C'est à 20h15 directement au musée. Et puis, on va dire aussi qu'il y a un concours de court-métrage qui est organisé en collaboration avec la Société d'études thanatologiques qui permet de faire des mini-cours. Il y aura toutes les références sur notre site internet. Vous pourrez, si vous voulez participer, vous êtes intéressé, vous pourrez aller voir. Et puis, bien sûr, aussi, aller regarder les informations concernant le musée d'ethnographie de Neuchâtel. C'est sur notre site www.rts.ch/tribu. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On vous souhaite une bonne journée, bon retour sur Neuchâtel. Châtel, Bernard Knodel. C'est la fin de ce tribut. Merci de votre attention. Merci à Fatmir Blakaï qui était à la technique, à Céline Zuffré qui est notre assistante de production, et puis à Nathalie Schoenberg qui est à la programmation musicale. Demain, dans Tribu, nous parlerons d'un nouveau mode de vie que nous pratiquons tous sans en avoir conscience. C'est la sérendipité. Vous ne savez pas ce que c'est? Bien, écoutez, demain, Tribu, 11h sur la première. Excellente journée.